Chers auditeurs de Radio Présence Figeac et Occitanie, aujourd'hui, Marie-Odile Lacaze me laisse le micro pour inviter à nouveau Tiennet Simonin à continuer à parler du Musette, de l'histoire du Musette, avec Armand à la technique. Bonjour Armand.
Bonjour Mathilde, bonjour Tiennet.
Et moi-même, Mathilde Lacaze, qui vais conduire cette émission avec Tiennet Simonin. Bonjour Tiennet.
Bonjour Mathilde, bonjour tout le monde.
Alors Tiennet, vous êtes en Bretagne en ce moment, mais grâce à la technique fantastique d'Armand, nous avons la possibilité de vous joindre en Bretagne pour que vous continuiez à nous parler de l'histoire du Musette. Donc nous avons déjà vu les origines du Musette dans une première émission, l'entre-deux-guerres dans une deuxième émission, et aujourd'hui Tiennet, de quoi va-t-on parler ?
Alors aujourd'hui on va partir des années 1940, et puis on va aller jusqu'aux années 1980, grosso modo. On va voir qu'il y a pas mal d'évolutions dans ces décennies-là. Donc la dernière fois, on était resté à 1940, qui marque une nouvelle fermeture des bals, comme en 1914. Fermeture des bals en France. Néanmoins, on a toujours du Musette et de l'accordéon, au moins à travers les enregistrements. Et comme j'avais dit, à la fin des années 1930, on a l'émergence du swing musette, qui est un métissage entre le musette, la musique manouche et le swing américain. Et en fait, c'est l'accordéoniste Gus Wieser qui va donner ses lettres de noblesse à ce style, avec Tony Murena également. Et on va écouter une valse. Gus Wieser a composé beaucoup, beaucoup de valses swing. Celle qu'on va écouter donc s'appelle Flambée Montalbanaise.
Superbe valse que cette flambée montalbanaise de Gus Wieser. Tiennet, je vous laisse le micro pour la suite.
Oui, on entend bien avec cette valse ce fameux swing qui est propre donc à la valse swing, au swing manouche. En quelques mots, avant Gus Wieser, on jouait plutôt les valses quand il y avait des croches, c'était assez carré en fait, et toutes les notes avaient à peu près la même durée. Ta 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 ta. Et avec l'arrivée du swing, on va plutôt jouer ta-ta-da-ta-da-ta-da. Ça, on l'entend bien dans cette valse-là, mais dans l'ensemble des valses swing du répertoire de Gus Wieser. Voilà, là, on est en 1940. On va avancer de quelques années et arriver en 1945, donc juste à la sortie de la guerre. Et on va écouter Joe Privat. Alors, Joe Privat, c'est un autre grand représentant du swing music. Il se fait déjà un petit peu connaître à la fin des années 30, mais dans un répertoire standard assez classique, un son musette assez classique également. Mais il va vraiment, j'allais dire, basculer dans le swing musette, donc à partir de 45, et il se fait connaître avec ses premières compositions, qui sont vraiment de très belles factures. On va écouter donc l'une de ses premières valses swing, qui s'appelle « Sa préférée ».
Présence à Figeac 97.7.
Ah, moi j'aime ces types de valses musettes, j'aime beaucoup écouter ça. Ça me rappelle les balles, ça me rappelle tout le swing manouche que j'aime beaucoup écouter aussi. Est-ce que vous jouez ce type de musique, Tiennet?
Non, le musette que je joue à l'accordéon, c'est plutôt le musette des années 20, années 20-30. Mais non, après le swing music, c'est vraiment très virtuose et c'est assez difficile, finalement. Mais
dans le phrasé.
Beaucoup écouté. Oui, le phrasé est différent. Il y a une technicité plus importante, à mon avis. Hein, mais voilà, plus de virtuosité, plus de dextérité également.
D'accord. Donc après le swing manouche, qu'est-ce qui suit dans l'histoire du music dans cette période-là?
Alors. Là, on est donc dans les années 40. il y a, à la sortie de la guerre, il y a une évolution du répertoire qui va se faire, un petit peu comme celle qui avait eu lieu après la Grande Guerre en 1919. Il va y avoir des changements dans le répertoire dansé. Alors fin années 40, on va voir apparaître, enfin se populariser plutôt, parce que ça apparaît un peu avant, la rumba, le cha-cha-cha, le boléro. Et puis un petit peu plus tard, dans les années 60, là on va avoir dans le bal musette, hein, l'arrivée du rock, du twist un petit peu après, et puis le Madison. On a une disparition progressive du foxtrot. Voilà, on en a de moins en moins. Donc renouvellement des danses. Et puis parallèlement, on a une scission assez claire dans les années 50 entre d'une part un musette qui va être fidèle au registre trois voix musette dont j'avais parlé à la dernière émission. Un musette qui se veut moderne en fait et qui va intégrer tout ce qui est à la mode au niveau des instruments. Donc on va avoir l'apparition de la guitare électrique par exemple, et puis plus tard les synthétiseurs, et puis encore plus tard ce qui est boîte à rythme, MAO, musique assistée par ordinateur. Voilà, donc un musette qui va être associé vraiment au bal populaire. Et puis d'autre part, un musette peut-être un peu plus à écouter, j'allais dire plus acoustique en tout cas, avec moins d'instruments électrifiés, plus mélancolique aussi, plus fidèle au son musette, mais lui pour le coup qui va être complètement boudé par les médias. Les médias vont vraiment mettre un coup de projecteur sur le premier type de musette dont on a parlé. Alors, pour illustrer un petit peu cette évolution du musette, alors on aurait pu écouter Yvette Horner, on aurait pu écouter André Verschuren, Aimable, voilà, qui sont vraiment des représentants très célèbres de ce genre de musette. Moi, je vous propose d'écouter un accordoniste qu'on connaît peut-être un petit peu moins, qui s'appelle Édouard Duleux, voilà, dans une valse de 69 qui s'appelle L'accordéon des amoureux. Alors, l'accordéon des amoureux, c'est vraiment le musette typique des années 60-70, avec batterie, guitare électrique qu'on emprunte au rock, avec des thématiques aussi beaucoup plus restreintes dans les paroles des chansons par rapport au café-concert, au music-hall. C'est voilà, l'amour qui dure toujours, la fête, la joie. Et c'est vraiment un musette qui reste associé, vous savez, à l'image de l'accordéoniste très souriant, qui joue debout.
Avec des paillettes.
Avec des paillettes, oui. Etc.
La boule à facettes.
Voilà, cette image-là de l'accordéoniste avec le sourire figé, ça date des années 50. C'est associé au début de la télévision, en fait. C'est l'ORTF. Et puis, il y a le Tour de France aussi. Voilà, l'accordéon était très, très associé au Tour de France. Et puis, il y a le développement des galas aussi, en parallèle dans ces années-là. Voilà, bref, on va écouter donc l'accordéon des amoureux par Édouard Duleux.
Mélodie câline et tendre. On voudrait toujours entendre. C'est un chant d'amour qui, dans un frisson, semble bercer filles et garçons, accordéon.
Ah, mais ça me fait penser au bal de village auquel j'ai été petite. Et puis, je revois très bien mon grand-père se préparer pour aller au bal musette le dimanche après-midi. C'est tout à fait ce style de musique-là, n'est-ce pas ?
Musette très populaire dans les années 60, 70, années 80 encore. Voilà, même encore dans les années 90. C'est toujours pas fini, en fait. On a toujours dans l'été dansant actuellement, souvent c'est les dimanches après-midi, on a ce genre de musette. Alors il n'y a plus forcément un orchestre maintenant qui accompagne l'accordéoniste, souvent c'est plutôt des boîtes à rythme ou des gens qui font du synthé, mais voilà, on a c'est pas terminé quoi, ce musette-là continue à
vivre
à travers les balles, et c'est vrai que c'est surtout surtout dans les campagnes, c'est vrai que ça reste surtout attaché à la ruralité.
Dans le Lot, moi je vois encore des bals de la poule farcie, des bals du dimanche après-midi avec ce style de musette, et les accordéonistes sont jeunes d'ailleurs.
Oui, c'est toujours très populaire, absolument. Alors, parallèlement à ce musette dont on vient de parler, il y a un phénomène né dans les années 1930, mais qui explose vraiment dans les années 50-60, c'est le néo-folklore auvergnat, avec des accordéonistes comme Jean Ségurel, comme André Tivet, Tonin Troupel, etc. À mon avis, le meilleur représentant de ce genre-là, ça reste Jean Vessade. Alors Jean Vessade, c'est vraiment une vedette du musette parisien dans les années 20-30. D'ailleurs, il est le premier à enregistrer avec Django Reinhardt, qui à l'époque était au banjo.
Ah, Django Reinhardt, justement, je demandais où est-ce qu'il était là-dedans.
Et ben voilà, Django Reinhardt, en fait, donc il s'est fait connaître, bien sûr, avec tout son travail autour du swing manouche, mais avant ça, il accompagnait les accordéonistes dans les bals musettes, plutôt avec le banjo, hein, avec la guitare un peu aussi, mais au début, c'était le banjo six cordes, voilà.
Alors, un petit mot sur Django Reinhardt, hein, qui vient donc des Gitans. Hein. Django Reinhardt jouait avec trois doigts à la main gauche, puisqu'il avait eu sa main brûlée dans un accident. Et ça reste un virtuose de la guitare et du banjo manouche, n'est-ce pas ?
Oui, complètement. Mais quand on l'entend au banjo, en fait, il a encore tous ses doigts, entre guillemets. C'était avant l'accident.
Ah, d'accord. Ok. Ouais,
c'est intéressant, d'ailleurs, de voir dextérité il arrivait à avoir avec tous ses doigts, alors qu'il avait seulement 13 ans, hein, je crois. L'enregistrement de Jean Vessade, le premier avec Django Reinhardt, ça c'est 1928, mais je crois que c'est 1915, si ma mémoire est bonne. Donc il devait avoir 13 ans, vraiment très très jeune, il a commencé à accompagner et à enregistrer du musette. Donc pour en revenir à Jean Vessade, c'est le compositeur d'un très grand passodoble très connu, Sombreros et Mantilles. Voilà, enfin bref, il a eu donc cette carrière dans le musette parisien dans les années 20-30. Et puis, dans les années 50, il revient avec pas mal de compositions à lui autour de l'Auvergne, avec toujours un petit peu les mêmes thèmes, les bergers, les pastourelles, les pastoureaux, les paysages de l'Auvergne, la nostalgie du pays qui est loin. On retrouve toujours un petit peu ces mêmes thématiques dans les paroles de chansons. Et puis, c'est finalement un métissage entre le folklore auvergnat et le musette. Voilà, souvent, il y a un petit peu de cabrette, un petit passage de cabrette pour rappeler les origines auvergnates, etc. Et je vous propose d'écouter une valse donc de Jean Vessade, par Jean Vessade lui-même, qui s'appelle « Ma pastourelle ». Thank you.
Ma pastourelle, c'est la plus belle des filles de chez nous. Sa taille fine, sa belle mine et son regard si doux rendent jalouse les fleurs même, je vous le dis sans détour. C'est pour cela que mon cœur l'aime, il l'aimera toujours. Chante, chante ma bielle, ton refrain le plus joli. Chante, chante pour elle, un air de mon pays.
Ça me rappelle une soirée que j'avais faite, enfin à laquelle j'avais participé, je crois que c'était en 2004 à Saint-Chély-d'Apcher, en Aubrac, et c'était une soirée Jean Veissade, et ils avaient passé, enfin ils avaient joué tous les morceaux de Jean Veissade justement. Je crois que c'était un hommage qu'on lui faisait pour l'anniversaire de sa mort ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même une musique qui s'écoute toujours et qui se joue toujours.
Ah oui, mais surtout en Aubrac, voilà, Jean Veissade était originaire de là-bas, donc c'est un répertoire qui reste très apprécié et très pratiqué en Aubrac. Oui.
Il y avait du monde, je me souviens très bien.
Ah oui, je veux bien le croire. Juste pour revenir sur Django Reinhardt, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, il était de 1910, donc en fait sur le premier enregistrement, il avait non pas 13 ans, mais 18 ans, ce qui reste quand même...
Oui, on l'avait rajeuni un peu, quoi.
On l'avait rajeuni un peu.
Bon, voilà. En tout cas, c'était quand même un virtuose. Peut-être qu'il n'y avait pas eu d'enregistrement avant ses 18 ans, mais je pense qu'il jouait déjà très bien.
Oui.
Alors ensuite, que se passe-t-il donc dans l'histoire de Musette ? Donc ça, c'est encore une musique qui est très actuelle et qui se joue. Et est-ce qu'il y a une évolution ? Ou est-ce que parallèlement, il y a une autre type de Musette qui se joue ? Comment on évolue ?
Bah, disons, ouais, le Musette dont j'ai parlé... plus fidèle au swing manouche, Musette plus acoustique, etc. Ça reste vraiment quelque chose de très confidentiel dans les années 60-70. On a des disques comme Manouche Party avec Joe Priva qui vont sortir, mais voilà, c'est encore une fois, ça reste assez
manouche
peu connu du public.
Ouais, ouais, très bien.
Très beau disque de Joe Priva. Et du coup, il y a quand même une forme de rejet dans la jeune génération du Musette, celui qui est médiatisé, le Musette d'Yvette Horner, de Verschuren, etc.
Le Musette Payette.
Le Musette Payette, voilà. Et là, on va trouver quand même dans la chanson française des années 60-70, ouais, 50-60-70. Alors après, l'accordéon, il va quand même garder une place importante dans la chanson française, même si elle est moindre que dans l'entre-deux-guerres. Donc on pense à Piaf, Barbara, Bourville, Léo Ferré, Jacques Brel, etc. Et alors c'est drôle d'ailleurs parce que on va écouter la chanson Vesoul, où Jacques Brel invite Marcel Azola à l'accordéon. Et dans les paroles de Vesoul, il y a d'ailleurs « J'ai horreur de tous ces flonflons, de la valse musette »
Et de l'accordéon. C'est
mais
ça.
Je pense pas que... Bien sûr, c'est une chanson et c'est pas Brel qui parle. Je pense que Brel aimait l'accordéon. Il y avait souvent de l'accordéon avec lui sur scène. Par contre, il se fait l'écho d'un sentiment très présent dans la jeunesse des années 60. Voilà, il parle de l'aversion, en fait, pour le musette paillette et pour l'accordéon musette. Donc voilà, on va écouter Vesoul par Jacques Brel et Marcel Azola.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. Et je te le redis, hey. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron.
Chauffe, Marcel, chauffe, c'est une expression que l'on entend beaucoup dans la langue française, enfin entre nous. Et j'ai appris à travers quelques documentations que ça venait de cette valse où Brel, emporté par son chant et par la dextérité de Marcel Azola, lui dit « chauffe, Marcel, chauffe » et c'est resté parmi nos expressions. Alors merci beaucoup Tiennet pour cette... troisième partie de l'histoire du musette. Nous allons nous quitter là-dessus, sur des notes de Marcel Azola et de Jacques Brel. Mais nous vous retrouverons pour une quatrième partie et dernière partie sur l'histoire du musette. J'espère que nos auditeurs restent en suspense. À bientôt. À la prochaine.